Alors, Sophie Monami, bonjour à tous, avocat à Orléans. D'abord, je tenais à remercier Mélanie Dupont et Valérie Simon de m'avoir conviée à ce colloque parce que, dans un premier temps, je trouve que c'est riche d'enseignements. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Et puis, parce que ça va me donner l'opportunité aussi de vous parler de ma pratique. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, hein. De ma pratique à travers le sujet qui nous occupe et donc de parler essentiellement des interactions que je peux avoir en ma qualité d'avocate victime de toute nature, des enfants principalement et puis aussi des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles, les interactions que je peux avoir avec l'UMJ d'Orléans. Voilà. D'abord, je voudrais dire que depuis que cette UMJ existe, mon travail en tant qu'avocat a beaucoup changé, énormément même, parce qu'il nous a bien facilité la tâche du point de vue du positionnement qu'on peut avoir en tant qu'avocat vis-à-vis de nos, voilà, de nos clients. Et puis parce que nous savons pertinemment, en tout cas pour ce qui concerne les UAPED et l'UMJ d'Orléans, que nous avons affaire à des psychologues qui sont formés tout ce qui est psychotrauma. Et donc, nous savons que nous allons pouvoir disposer de comptes rendus très détaillés, très exhaustifs, nourris d'informations nombreuses, qui nous permettent ensuite d'aller devant un magistrat pour expliquer quel est le retentissement psychologique de la violence subie par nos clients victimes. Alors, je ne vais pas être trop redondante sur ce qui a déjà été dit, mais je tenais quand même à préciser que ici on parle du retentissement, de l'évaluation du retentissement psychologique dans les UMJ dans le procès pénal et que nous en tant qu'avocats on parle ici de tout ce qui est circuit court entre guillemets, c'est-à-dire le compte rendu de l'UMJ qui nous arrive dans une procédure ici dont on sait qu'on va arriver devant un tribunal correctionnel principalement sans instruction, c'est-à-dire qu'il n'y aura que l'enquête réalisée à travers le procureur de la République. Et donc, on n'aura pas d'autres éléments d'évaluation que le compte-rendu de l'unité médico-judiciaire de l'hôpital et le certificat médical du médecin légiste. C'est un temps crucial, la rencontre entre nos clients victimes avec les psychologues de l'UMJ, c'est un temps crucial à tous les niveaux. Parce que d'abord, ça va fonder effectivement une bonne partie de l'enquête, mais aussi parce que c'est le premier interlocuteur finalement de nos clients. Et manifestement, on sent quand on les reçoit ensuite qu'il y a un grand apaisement d'avoir été reçu avec beaucoup de soin et beaucoup de bienveillance. Et je pense que c'est dans ce cadre que se fait l'évaluation. Alors... L'objectif, c'est la description détaillée des réactions immédiates d'une victime, notamment quand il n'y a pas de signe physique de l'agression, comme c'est souvent le cas. Moi, je vois énormément de victimes de harcèlement, de viol, et j'ai été frappée par le fait, on l'a beaucoup répété, que les UMJ, elles sont limitées dans leur pratique par la temporalité, parce que bien évidemment, comme ça a été beaucoup dit, et il ne faut pas l'oublier, le compte-rendu, il est requis pour un traitement rapide de l'information et malheureusement, il se fait généralement dans une période de temps où on n'est pas à distance des faits. Ce qui fait qu'on va avoir une évaluation qui ne peut pas se faire au long cours avec un pronostic sur les séquelles qui peuvent être celles des victimes qui se rendent aux UMJ. Pardon d'être un peu brouillonne, j'essaye de faire des coupes franches en fonction de tout ce qui a déjà été dit pour ne pas répéter ce que vous avez déjà entendu. Je voudrais juste être assez concrète pour vous dire que j'ai bien entendu aujourd'hui quelle était la différence fondamentale qu'il y avait à faire entre, en tout cas, l'ITT psychologique et l'ITT dans sa globalité et qu'il ne fallait pas... opérer une trop grande distinction et que les médecins légistes étaient là pour effectuer dans le cadre de leur mission l'évaluation dans toute sa complétude. Simplement, nous, avocats, on est contraints par la projection qu'on doit faire de ce que va faire le magistrat qui va être appelé à statuer, à juger, on est contraint par la manière dont il va juger. Et je vous donne un petit exemple. J'ai eu affaire récemment à une jeune femme pour laquelle je suis allée plaider, donc, qui avait été victime de deux viols commis par un de ses bons camarades de classe. Et on avait en main un rapport qui avait été, un compte-rendu qui avait été réalisé par une psychiatre d'un centre hospitalier, psychiatrique, donc, à distance des faits. On était à plus de 4 mois après les faits. Et il se trouve que c'était une psychologue clinicienne de ce centre qui avait réalisé le compte-rendu et qui s'est autorisée, après un compte-rendu très détaillé comme peuvent le faire nos UMJ ou d'autres, qui s'est autorisée à fixer une ITT psychologique. Voilà. Donc moi j'étais plutôt ravie d'avoir ce document en main parce que voyez-vous, avec mes 12 jours d'ITT qui étaient très nourris par toutes les explications qui étaient données sur le retentissement psychologique qu'elle avait constaté sur la personne qu'elle avait reçue, eh bien j'ai pu obtenir une indemnisation qui était très conséquente. Ce qui n'est pas le cas malheureusement lorsque nous arrivons avec des comptes rendus qui ne fixent pas d'ITT entre guillemets psychologique. Alors, loin de moi l'idée de venir contredire tout ce qui a déjà été dit, simplement pour vous expliquer que dans notre pratique à nous, on est ennuyé parce que c'est souvent le certificat médical du médecin légiste qui va fonder ensuite la décision du magistrat du siège dans la condamnation civile, c'est-à-dire l'indemnité qui va être allouée à la victime. Alors, bien évidemment... ce n'est pas seulement l'indemnisation qu'on cherche en tant qu'avocat par le biais de la rédaction que vous avez à faire de votre compte-rendu. C'est aussi de pouvoir nous éclairer sur l'état de la personne qu'on reçoit et la manière dont elle va pouvoir se reconstruire et comment nous, on va pouvoir l'accompagner dans cette réparation. Ce qui me semblerait important, mais là... C'est jeter un pavé dans la mare puisqu'il n'y a pas de politique ici, pas de députés, pas de personne qui puisse faire évoluer les choses. Mais il peut y avoir un retour plus tard ou un deuxième colloque, je n'en sais rien. Ce qui pourrait être fait, c'est une sorte de contre-visite, voilà, à distance des faits déjà, pour qu'on puisse aller vers un pronostic que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes dans votre temporalité après réquisition du parquet alors que les faits viennent d'être dénoncés. Et puis je voudrais terminer en indiquant que en tant qu'avocat, ce qui est particulièrement important pour nous au titre de l'évaluation du retentissement psychologique qui est faite par les UMJ, c'est qu'on en élargit le champ. En tout cas moi je pratique comme ça, j'élargis le champ d'efficacité de l'évaluation. Pourquoi ? Parce que on avait une forte attente, c'était que l'évaluation qui était faite par l'UMJ ne reste pas confidentielle entre les mains des enquêteurs. Et cette attente, elle a été exaucée en avril 2021. Je pense que bon, voilà, beaucoup le savent. On a aujourd'hui, grâce à une nouvelle disposition du Code de procédure pénale, l'opportunité de pouvoir faire en sorte que la victime dispose du compte-rendu de l'UMJ. Donc elle peut le demander. Alors je ne rentre pas dans le détail sur les modalités... selon lesquels ce compte-rendu peut être demandé. Mais en tout cas, ça nous sert, on a parlé ce matin des ordonnances de protection, devant le juge aux affaires familiales pour une saisine rapide du juge aux affaires familiales et aussi pour faire comprendre au juge à quel point il faut, dans sa décision, protéger la personne qui arrive devant elle. Et à ce titre-là, les détails qui sont donnés dans les comptes rendus des UMJ sont très, très importants. Là, on ne parle plus d'ITT, on parle vraiment du retentissement psychologique avec toutes ses conséquences, la gêne du point de vue du quotidien, toutes les fonctions de la personne qui sont altérées, et plus il y a de détails, et plus nous, on va pouvoir convaincre le magistrat de la nécessité de protéger les personnes. Alors, une petite remarque finale, je pense que je n'ai pas été longue du tout, mais parce que j'ai fait beaucoup de coupes franches, pardon. Si je peux me permettre, ce qui est important, notamment devant le juge aux affaires familiales, mais aussi devant le tribunal pénal, on a ici une notion d'autorité parentale aussi, hein, lorsqu'on est face à des violences conjugales. Ça peut paraître évident pour vous qui êtes des praticiens du monde de la psychologie et du praticien du monde médical. Ça ne l'est pas forcément pour un juge. Nous, avocats qui travaillons beaucoup avec des victimes, on se forme, donc on peut essayer de leur expliquer. Mais quand on a un document écrit qui nous permet de le faire encore mieux, c'est important de bien préciser à quel point un enfant qui assiste aux violences commises sur son parent, voilà, lui aussi a un retentissement psychologique énorme. Voilà. Donc je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie.